Seigneur, merci de ta grâce. Merci pour qui tu es, Seigneur. Seigneur, vraiment, le désir de mon cœur, c'est que tu sois honoré ce matin. Que tu gardes les portes de mes lèvres. Que ce soit vraiment ton esprit qui se manifeste, Seigneur, et ta volonté. Que tu nous bénisses, que tu nous transperces par ta bénédiction, par ta parole. Que nous puissions vraiment te découvrir davantage, mais aussi être interpellés par ton cœur à cause de ton amour. Au nom de Jésus, amen. Il fonctionne le micro ?
Oui,
ça va.
Pardon.
C'est marrant parce que ce matin, il y a des choses qui ont été dites et qui sont en rapport avec, je dirais, l'exhortation. Je ne veux pas dire que c'est un message. C'est un message aussi, mais ils sont en rapport. C'est le fait de que Christine a dit ce matin, on va prendre du temps pour poser nos valises, mais aussi pour écouter, pour tendre l'oreille. Et bien sûr, ce fameux Yom Kippour, qui démontre le désir du cœur de Dieu. Donc, je veux me laisser guider par l'Esprit, et on verra. Alors, ça fait 2 mois que j'ai à peu près ce thème. Bon, le thème, je vais le dire, c'est en fin de compte, c'est se conformer à Christ. Bien sûr, pas se conformer au monde, mais se conformer à Christ. Le but, c'est qu'on ressemble à Jésus. Et donc, ça fait 2 mois que ça me travaille dans le cœur, parce que c'est d'abord pour moi personnellement. Déjà, le Seigneur a déjà était assez ferme avec les docteurs de la loi, les scribes, les pharisiens, les chefs religieux, en disant « Vous enseignez le peuple, mais vous ne vous enseignez pas vous-même. » Donc ce que le Seigneur veut d'abord pour chacun de nous, parce qu'il nous aime, et moi le premier, c'est qu'on s'enseigne soi-même d'abord, tous ensemble. Donc j'ai eu à cœur le passage dans Jacques, que bon, je pense et j'espère que tout le monde connaît. C'est Jacques chapitre 1, à partir du verset 16 jusqu'au 25. Et c'est la mise en pratique. Alors avant, je vais lire dans Romains chapitre 8, verset 29. Chapitre 8, verset 29. Quelque chose de très important que le Seigneur nous rappelle, mais je pense qu'on a besoin, le Seigneur sent qu'on a besoin toujours dans notre vie de nous rappeler vraiment pourquoi on a été créé, pourquoi on a été sauvé. Et dans chapitre 8 de Romains, verset 29, car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Donc bien sûr, la phrase à retenir, semblable à l'image de son Fils. Alors je veux lire Jacques, verset 16 jusqu'à 25. Ne vous y trompez pas, mes frères bien-aimés. Toute grâce excellente et tout don parfait descend d'en haut du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Il nous a engendrés selon sa volonté, par la parole de vérité, afin que nous soyons en quelque sorte les prémices de ses créatures. Sachez-le, mes frères bien-aimés, ainsi que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère, car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. C'est pourquoi, rejetant toute souillure et tout excès de malice, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt comment il est. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Alors le Seigneur nous a touché nos cœurs et a fait comprendre qu'il faut mettre en pratique. D'abord, on va être reconnaissant de l'œuvre de Dieu en nous. Dans le verset 16, 17 et 18, le Seigneur, il nous montre que Dieu est la source de bénédiction en Jésus-Christ et que Dieu ne change pas. Bien sûr, sans Jésus, on ne peut rien faire. Alors, je rappellerai un peu cette image de la parabole des talents. Dieu nous a donné un talent, cinq talents, deux talents, un talent. Bon, ce talent, c'est Jésus-Christ. C'est l'œuvre de Dieu, c'est la source en nous. Et cette source, il faut la multiplier aujourd'hui. Et la seule façon de la multiplier, c'est de la suivre, mais de mettre en pratique. D'approfondir notre relation en Jésus-Christ. Une relation authentique. Ça met bien sûr des années, hein, ça se fait pas comme ça. Et donc le Seigneur ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui et demain. Ça fait 2000 ans que ça a été écrit le Nouveau Testament. Je parle pas de l'Ancien Testament. Donc les exhortations du Seigneur, c'est soyons reconnaissants pour la source de bénédiction. Des fois, on n'a pas toujours conscience que Jésus-Christ habite en nous. On le sait, mais parfois, on a besoin que le Seigneur, nous titille, nous ravive dans notre cœur, dans nos pensées, que l'œuvre de Dieu est en nous, par le Saint-Esprit. Et que c'est là qu'on doit fournir tous nos efforts. Le reste va suivre. Parce que c'est de l'intérieur que va briller sur l'extérieur. C'est ça qui est le plus important. C'est là où il y a le plus de boulot. C'est là où il y a le plus de travail. Mais on doit s'y forcer. Parce que faut pas oublier qu'on est les premiers bénéficiaires, comme on peut être les premiers perdants. Aujourd'hui, il s'agit de nous tirer vers le haut, pas de nous tirer vers le bas. On a quelqu'un qui s'en charge, c'est l'ennemi déjà. Parfois, on lui donne la main, que le Seigneur nous pardonne. Mais on doit se tirer vers le haut. C'est l'objectif à atteindre, ressembler à Jésus. Alors, à partir du verset 19 jusqu'à 22, le Seigneur nous donne, comme on emploie aujourd'hui dans la société, des choses pratiques de la vie. On achète une cuisine, on regarde, on aime bien les choses pratiques. On achète des voitures, les options des choses pratiques. Aujourd'hui, le Seigneur nous dit, dans ma parole, il y a les choses pratiques. Et des choses toutes simples, déjà mettre en pratique. Il n'y a pas de recette, il n'y a pas de, autre chose, comment réussir à porter du fruit. Il n'y a pas le choix, on doit pratiquer. On doit vivre l'Évangile. Il faut qu'elle soit dans nos entrailles. Il faut qu'en chacun de nous, on puisse voir une facette de Jésus en chacun de nous. Il faut faire ressortir Christ. Alors, dans le verset 19, il nous dit « Soyez prompt à écouter. » Prompt à écouter. Quelle sagesse. Seigneur, je dis pardonne-moi, je ne suis pas toujours prompt à écouter. Toujours envie de parler. Bon, aujourd'hui, je suis obligé. Je ne peux pas faire autrement. Il nous a donné la parole pour proclamer aussi. Mais cette attitude qu'on doit avoir, être prompt à écouter, surtout la parole de Dieu, on a ce privilège de la méditer tous les jours. On n'aura pas d'excuses. J'en aurai pas non plus. Et prompt, j'ai regardé dans le dictionnaire qu'est-ce que ça veut dire. Qui agit, réagit rapidement. Bon, ça, c'était les termes dans le dictionnaire. Hein. Un esprit prompt qui s'effectue rapidement. Donc, quelque part, on doit être en alerte. Après, c'est marrant quand on pense à toute la parole, un peu dans l'Apocalypse, à la fin, que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Il y a toujours ces phrases où il faut vraiment faire attention et le Seigneur, des fois, doit attirer notre regard. On doit écouter ce que le Seigneur nous dit, surtout quand on lit sa parole, parce qu'il nous parle énormément, mais on zappe énormément de choses. Alors, on en a déjà parlé, lent à parler, lent à se mettre en colère. Là, c'est un des fruits de l'esprit, la maîtrise de soi. Et c'est vrai que on doit être lent à parler devant le Seigneur, dans la prière, dans l'église. On doit faire très très attention. Ça va très très vite. Hein. Il y a un dicton qui dit dans la société, vaut mieux un coup de couteau qu'un coup de langue. Mais de toute façon, l'un ou l'autre, c'est pareil. Donc bon, c'est pas une bonne idée non plus. Mais la langue, c'est le plus petit membre, c'est celle qui peut embraser toute la forêt. C'est celle qui divise, c'est celle qui détruit. Et c'est celle où on a du mal dans nos propres vies, honnêtement, à garder maîtrisée. Mais Paul nous dit, il faut assujettir la chair. Il faut la maîtriser. Et ça, c'est en marchant par l'esprit. En pratiquant, en obéissant. Après, bon, ben, il dit dans le verset un peu plus bas, « Rejetez toute souillure. » C'est dans le verset, 21. « C'est pourquoi rejetant toute souillure et tout excès de malice. » Là, il demande de rejeter, par contre. Rejeter tout ce qui va nous polluer. Tout ce qui va nuire à notre croissance en Jésus-Christ. Après, il dit « Recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. » Parfois, je demande même pardon à Jésus que je n'ai pas toujours reçu sa parole avec douceur. Parfois, j'étais... Avec douceur, c'est avec être docile. La mettre en pratique. Ne soyons pas toujours révoltés contre la parole de Dieu. Ne prenons pas toujours ce qui nous intéresse dans la parole et ce qui ne nous intéresse pas, parfois on le zappe. Parce que ça doit nous faire changer. Ça doit modifier notre comportement. Et parfois on ne la reçoit pas toujours avec douceur. Il faut aussi se rappeler que Jésus est la parole faite chair. Si on ne reçoit pas cette parole avec douceur, c'est Jésus qu'on ne reçoit pas. Et on se fait du mal à soi-même et à Jésus-même. Alors je dirais aussi, je vais prendre simplement Ecclésiaste, parce que quand il parle de la langue, j'avais oublié aussi, parce que c'est notre Père, c'est notre Seigneur, et on doit apprendre aussi comment aussi se comporter devant le Seigneur. Devant Jésus. J'aurais bien aimé être là quand les apôtres ont vécu avec Jésus, simplement pour voir leur réaction devant Jésus. S'ils seraient permis des écarts, voir simplement leur attitude afin que je puisse corriger les miennes. Alors là, c'est Ecclésiaste, bon, chapitre 5, verset 1. Ne te presse pas d'ouvrir la bouche et que ton cœur ne se hâte pas d'exprimer une parole devant Dieu. Car Dieu est au ciel et toi sur la terre. Que tes paroles soient donc peu nombreuses. Donc je dirais merci Jésus pour le Yom Kippour. On sent qu'aujourd'hui, malheureusement, on voit un peu aussi dans le monde cette violence qui n'est pas maîtrisée. On voit les dégâts que ça fait. Mais on voit aussi les dégâts de la colère, je dirais, pardon, aussi. C'est pareil, mais de la colère aussi dans les églises. Et il faut maîtriser, mettre en pratique. Dans le verset 22... Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. J'ai regardé dans le dictionnaire le mot borné et l'exemple limité, il est marqué enfermer dans certaines limites, réduire, se restreindre. Et vous savez que le mot borne, il y a le mot aussi pour les bornes, et ça on le voit dans la parole de Dieu, même dans notre société. Autrefois les paysans, ils mettaient des bornes pour délimiter leur terrain. Donc Israël aussi le faisait, pour délimiter. Mais là le terme il veut dire, bon, borner c'est se restreindre, c'est se limiter. On se limite. Quand on ne pratique pas la parole de Dieu, on se limite. On ne pourra pas progresser spirituellement. Ce n'est pas possible. On ne pourra pas grandir spirituellement. On ne pourra pas mûrir. Je dirais mûrir. Pour moi, c'est le mot le plus approprié, mûrir spirituellement. Devenir des disciples, des hommes et des femmes à l'image de Jésus, mûrir, être des maîtres. Attention. L'exigence, le Seigneur nous demande de lui ressembler, d'être des maîtres. C'est pas beau ça? Bon, il y a du travail. Mais il nous demande d'avancer, de ne pas nous limiter. Et parfois on se limite dans nos raisonnements, on se trompe soi-même. Mais il faut laisser le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui nous conduit dans toute la vérité. On peut se limiter même dans les doctrines. Malheureusement. Le Seigneur nous dit de prendre sa parole, de la lire, de la manger, de la ruminer, de la méditer. Prenez-la avec douceur. Ne zappez pas la parole vite fait comme ça. Parce que c'est là que viennent aussi parfois les tromperies, les mensonges. Si on ne pratique pas la parole, ça va être difficile. On ne pourra pas progresser. On se limite soi-même. On se limite soi-même. Et on se borne. Bon, c'est pas loin d'être têtu. Je ne veux pas dire qu'on est têtu, mais... Parfois, on est borné. Alors, je vais prendre simplement un exemple que Paul a vu dans une certaine église à Corinthe. Un exemple aussi qu'ils étaient bornés. Et ça s'est vu dans leur maturité. Ils sont restés des bébés spirituels. Ils ne sont pas devenus des hommes et des femmes adultes, mûrs spirituellement. Parce que dans l'unité, après, on doit être capable d'être autonome. C'est bizarre, hein? De suivre Jésus. Alors, je prendrai 1 Corinthiens chapitre 3, au verset 1 à 3, qu'on connaît. Pour moi, frère, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler. mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. Je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas la supporter, et vous ne le pouvez pas même à présent, parce que vous êtes encore charnels. En effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie et des disputes, n'êtes-vous pas charnels et ne marchez-vous pas selon l'homme ? Paul a discerné les fruits. Et j'aime bien aussi ce que le Seigneur nous a dit, c'est un point d'indicateur. On reconnaît un arbre à son fruit. Il nous a donné les instruments pour mesurer l'état spirituel de nos vies dans l'Église. Il faut aller au-delà, il faut se tirer vers le haut, il faut grandir en Jésus-Christ. Il ne faut pas rester des bébés spirituels. Les bébés, ils sont assistés. On doit s'en occuper, c'est un plaisir, hein, attention. C'est un plaisir de s'occuper des bébés, mais ils sont assistés, ils ne sont pas autonomes. Ils doivent boire du lait, on doit les laver, les habiller. Alors, ils ont l'impression d'être des rois, mais sans grandir. Mais après, quand ils commencent à grandir, ils commencent à se fortifier, à se muscler, à être à l'image du Christ, à Jésus-Christ. Dans le verset 23 et 24, car si quelqu'un écoute la parole, toujours dans Jacques, car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt comment il est. Le Seigneur, il aime bien quand on se regarde à l'intérieur. Qu'est-ce qu'il aime ? Combien de fois il disait aux chefs religieux en Israël, mais vous nettoyez l'extérieur de la coupe, mais nettoyez l'intérieur. C'est d'abord le plus important. C'est après que ça va rayonner. Avant de retirer la paille de ton frère, regarde d'abord ta poutre. C'est l'humilité profonde. C'est l'œuvre de Dieu en nous. Elle est là, l'œuvre, elle est là. Et il faut qu'à travers nos yeux, qu'à travers nos gestes, qu'à travers nos paroles, on voit Jésus. C'est ça le but. Pourquoi à Corinthe, les premiers disciples ont été appelés chrétiens ? Qu'est-ce qu'ils ont vu ? Ben, ils savaient qu'ils suivaient Jésus. Mais pourquoi on les a appelés chrétiens ? Ben, parce qu'ils faisaient ce que Jésus faisait. Tout simplement. Ils témoignaient, ils vivaient la vie de Jésus. Ils vivaient la vie de Jésus. Ils ne vivaient pas la vie d'un autre. Il vivait la vie de Jésus. Alors, lire la parole en la zampant très vite pour dire, bon, j'ai fait mon mea culpa tous les matins, j'ai lu 3 chapitres, il faut le faire. Mais parfois, on zappe souvent la parole très vite et puis on s'en va. Alors, on a essayé, par exemple, de regarder votre visage dans un miroir. C'est un défi. Essayez de regarder votre visage dans un miroir. Regardez-vous. Partez et essayez de vous rappeler des moindres détails, ne serait-ce qu'une heure après, même 2 heures, ou en fin de journée. Le moindre détail. Ben vous allez voir, c'est bizarre. Vous n'allez pas réussir. J'ai essayé, pourtant je me regarde tous les jours dans le miroir. Et on est une société où on n'arrête pas de se regarder dans un miroir. On est là, ah, j'ai bien fait mes cheveux, oui, ça va, je suis bien habillé, ça va. On n'arrête pas d'user le miroir à notre époque. Mais le paradoxe, qu'est-ce qu'on peut oublier après comment on est ? C'est dingue, hein ? Alors, bien sûr, le verset clé, je dirais, c'est le verset 25. Jésus nous aime. Le verset 25... Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Alors ça, c'est l'exhortation, bien sûr, de Jacques, mais de Jésus pour l'Église, pour les chrétiens. Voilà, il nous dit, pardonne pas notre temps, mettons-nous à l'œuvre, parce que c'est ça le plus important et c'est ça l'essentiel. Moi, j'ai envie d'arriver au royaume et que le Seigneur me dit, c'est bien bon et fidèle serviteur, entre dans la présence de ton maître et qu'il me rajoute des choses. Mais pas de celui qui enterre le talent et qui ne met pas en pratique, qui ne vit pas l'évangile, on doit le vivre. Ça doit couler dans nos veines. Là, ce serait un peu autre chose. Donc il nous dit persévérer, c'est pour ça qu'on doit s'encourager, et persévérer, à continuer, même si ce n'est pas toujours facile, on le sait très bien. Mais le cap, l'objectif, il est digne, Jésus est digne. Il a versé son sang, il a souffert. On l'a rappelé tout à l'heure, il faut que ce soit une révélation, il faut que ce soit une révélation encore plus profonde. Il faut que Jésus se révèle davantage encore en nous, de telle façon qu'il va ranimer le premier amour et qu'on ne voit plus que lui. Sans oublier bien sûr notre famille. Hein. Ils nous sont chers à nos cœurs, mais aussi au cœur de Jésus. Voilà. Marcher avec Jésus. Vous savez, hein, il y a cette histoire d'Abraham, à un moment donné, je ne sais plus trop, mais à un moment donné, il y a eu le témoignage dans la ville où les gens, ils ont remarqué que Dieu était avec Abraham. Et comment ils ont pu voir ça? C'est qu'Abraham, dans sa vie ou dans son regard, dans son attitude, il y avait la présence du Seigneur. Plonger. Il faut plonger ses regards dans la parole, comme on plonge dans une piscine. Et il faut y aller à fond dedans. Il faut nager dedans. Il faut pas. Il faut se nourrir. C'est la parole de Dieu. Il faut en vivre parce que c'est ça. C'est ça le pain de vie. Hein. Le pain de vie, hein, la parole bénie. Hein. Hein, c'est les oracles de Dieu. Hein. C'est pour ça qu'on en fait attention quand on la prononce. Il faut pas dire des bêtises. Mais qu'est-ce qu'elle nous fait du bien? Elle nous éclaire sur notre chantier. Elle est formidable. On voit une pierre, oh, on peut passer au-dessus. Elle nous dit enlever les pierres, déraciner les mauvaises herbes. Je veux un jardin propre et nickel. C'est ça que Jésus veut. Et on sera les bénéficiaires. Parce que le perdant, ce n'est pas Jésus. Ce sera l'Église, ce sera nous. Si on néglige l'œuvre de Dieu en nous. Et ne faisons pas plaisir à l'ennemi pour cela. Défendons bec et ongles la moindre parcelle de la terre promise en nous. Il faut la défendre bec et ongles. On ne doit pas se laisser voler. Non. C'est Jésus qui règne. Il est le roi, le Seigneur. Je ne vous dis pas quand on va aller au royaume, ça va être la folie. Ça va être la folie. Alors, je vais prendre Hébreux parce que le Seigneur nous exhorte et nous montre vraiment le but à atteindre pour être conforme à l'image du Christ, pour lui ressembler. Et Hébreux, chapitre 5, verset 12. Hébreux chapitre 5, versets 12 à 14. Vous, en effet, qui depuis longtemps devriez être des maîtres. Donc vous voyez, si on est des chrétiens depuis 30 ans, 40 ans, vous savez, j'ai déjà entendu hein, avec tristesse, et je regarde ma propre vie aussi, hein. Et j'entends des fois des frères et sœurs qui disent « Mais il ne se passe rien dans ma vie. Je suis toujours au même point. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe ?» Une pauvreté spirituelle alors qu'on devrait être des maîtres. Des maîtres. Jésus, il veut qu'on soit des maîtres. Hein. Il veut qu'on lui ressemble. Vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu. Vous en êtes venu à avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. Or, quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est un enfant. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. C'est un beau programme. À la fin, on va passer l'examen. Il ne faut pas rester toujours des enfants. Il faut qu'on arrive à discerner, il faut qu'on voit le fruit, il faut qu'on change. C'est ça le but. Et comme il dit, quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de Dieu. Il faut avoir l'expérience de la parole de Dieu. Il faut la vivre. C'est ça la formation. On va passer par là. Qu'est-ce que Jésus a fait? Jésus a montré l'exemple avec ses disciples. Qu'est-ce qu'il a fait avec ses disciples? Pendant 3 ans, il les a formés sur la théorie et la pratique. Il leur a donné des responsabilités, mais pas des grandes responsabilités. Même s'ils ont fait des choses déjà pas mal, mais il a dit d'abord, suivez-moi, et d'abord vous allez apprendre. Vous allez apprendre et grandir, afin que le jour où je puisse vous lâcher, vous soyez autonome et dépendant de moi. Et il a donné aucune responsabilité, Jésus. Qu'est-ce que le Seigneur a fait avec Paul pendant 14 ans? 14 ans, Paul a été mis à part pour un ministère, bien sûr, extraordinaire. Et quel était le désir du cœur de Paul? C'était pas simplement de bâtir des églises, d'aller dans le monde entier et de dire, ah bah tiens, j'ai bâti une église, c'est bien, elle est belle. Bon ben, je m'en vais faire une autre. Faire des disciples. Jésus a dit, enseignez-leur tout ce que je vous ai dit et prescrit. Faites des disciples. Sinon, si ce n'est pas des hommes mûrs ou des femmes, quand les temps difficiles vont arriver, vont être balayés comme des fétus de paille. S'ils ne sont pas ancrés sur le rocher, s'ils ne construisent pas la maison sur le roc, mais sur le sable, mais ils vont être balayés, les malheureux. Ils vont être balayés. C'est pour ça que dans les églises, on ne doit pas donner de responsabilité trop vite à des jeunes convertis. À cause de l'orgueil. Quand on a l'exemple avec Pierre a toujours voulu foncer. C'est bien, c'est un fonceur, toujours aller devant. Mais Jésus a dû le modeler. Il a mangé la poussière, excusez-moi. Mais après, Pierre y a compris, Pierre. Et vous savez, Jésus n'avait pas encore fini son enseignement. Quand Jésus y est ressuscité, on a chanté tout à l'heure, qu'il est revenu sur la plage, il a fait un barbecue. Formidable. Mais qu'est-ce qu'il a dit à Pierre? Pierre, m'aimes-tu? 3 fois, il lui a répété. Il arrive un moment, au début, oui, je t'aime, Seigneur, il n'y a pas de problème. C'est sûr et certain. Ah, paie mes brebis. Et au bout de la 3e fois, Pierre a compris. Il y avait encore du boulot. Et là, il est resté humble devant Jésus. Seigneur, tu sais tout. Voilà, je parle plus, je me tais maintenant. Tu sais tout. Le Seigneur, il veut vraiment des hommes et des femmes aujourd'hui, solides en Jésus-Christ. Et le seul moyen, c'est de mettre en pratique la parole. Et là, on a tous les petits détails, toutes les exhortations, tous les moyens pratiques pour pouvoir réussir à devenir comme Jésus. On doit être des maîtres. C'est le Seigneur qui le dit. On doit être. Les apôtres, ils sont devenus des maîtres. Paul, il est devenu un maître. Et lui, Paul, son but, c'était pas de bâtir un bâtiment, c'était l'église. Et quand Paul est arrivé quelque part, ben, il avait l'usage au discernement. Il était capable de juger une situation dans une église ou dans n'importe quelle situation. Il savait discerner le bien du mal parce qu'il était mûr. Il avait grandi en Jésus, en pratiquant toute la parole. Quand je dis toute la parole, c'est toute la parole. Il faut prendre toute la parole dans tout son contexte. Une relation authentique, Jésus veut. Une relation authentique. Je pense que Jésus, des fois, est fatigué, il nous aime, mais est fatigué des apparences, de l'hypocrisie, de la superficialité, de la légèreté. Suis-moi, voilà. Il veut de la profondeur, la profondeur. Et il est digne. Mettons-nous à l'œuvre. Le premier commandement, c'est quoi le premier commandement? Pourtant, on le sait. Mais moi, des fois, je dis, Seigneur, il faut que tu le rentres, hein, parce que des fois, ça a du mal à rentrer. Hein. Le premier commandement, tu adoreras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit et de toute ta force, toute ta volonté. Être à l'œuvre, on doit tout mettre son énergie à grandir en Jésus-Christ pour lui ressembler. C'est ça, c'est ça. Après le reste, on évangélisera, il y aura d'autres choses qui se feront, mais il veut une église brillante. Et c'est ça la gloire de Dieu. Ce sera là la présence du Seigneur. La transformation du cœur, la transformation du disciple. Vous savez, c'est comme le papillon dans son cocon. C'est ça cette image, on va ressortir et on va ressembler à Jésus. Et on aura le témoignage de l'extérieur. On aura le témoignage de l'extérieur. Hein. Déjà dans les actes, hein, ils avaient le témoignage hein, de l'extérieur. Ah, ils voyaient qu'ils adoraient Jésus et le peuple était admiratif. Après, je ne sais plus si c'est dans Thessaloniciens ou autre, il y a une autre église aussi comme ça qui témoigne de leur foi en Jésus-Christ. On ne peut pas mentir à Jésus. On ne peut pas mentir au Saint-Esprit. C'est impossible. C'est impossible. On peut mentir entre nous, mais on ne peut pas mentir à Jésus ni au Saint-Esprit. Donc, voilà ce que le Seigneur nous demande. Il faut exceller. Là, si on peut exceller dans quelque chose, alors là, il faut exceller. Et s'encourager les uns les autres, parce qu'on est tous dans le même bateau. Donc, voilà. Et on sera tous à côté de Jésus. Croyez-moi. Donc voilà, je vais prier. Seigneur, merci pour ta parole. Merci vraiment pour la semence que tu as plantée en nous et dont nous devons nous occuper. Nous devons la cultiver avec toi parce que c'est ta vigne. C'est ta vigne, Seigneur. Et l'œuvre du Saint-Esprit dans nos vies, c'est de glorifier Jésus-Christ. Oui, Seigneur, je te remercie que le peuple juif aujourd'hui commence à constater et à prendre conscience dans leur cœur du véritable. Seigneur, vraiment, je t'implore et je t'en supplie. Accorde-nous ce renouvellement dans nos vies ici dans l'Église et je réclame cette bénédiction pour tous mes frères et sœurs, et moi y compris, au nom de Jésus, d'un renouvellement dans nos vies. Un renouvellement dans nos vies. Renouvelle ta vision, Jésus, de toi. Renouvelle nos cœurs, Seigneur. Oh oui, Seigneur, renouvelle nos cœurs pour qu'on puisse te servir, t'honorer. Et grandir en toi, Seigneur, parce que c'est le but, à ton image, afin qu'on puisse témoigner et que notre lumière brille devant les hommes. Seigneur, merci Jésus, et merci parce que tu vas exaucer cette prière. En ton nom, Jésus, Amen.